Note historique sur le conte de la servante écarlate. Transcription partielle des procès-verbaux du 12e colloque d'études guiléadiennes tenu dans le cadre du congrès de l'Association internationale d'histoire organisé à l'université de Deney, Nunavut, le 25 juin 1195. Présidente, professeur Marianne Crescent Moon, faculté d'anthropologie caucasienne, université de Deney, Nunavut. Conférencier principal, professeur James Darcy Piexoto, directeur des archives des 20e et 21e siècles, Université de Cambridge, Angleterre. Je suis heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue ce matin. Et je me réjouis de constater que vous êtes venus si nombreux pour écouter l'exposé du professeur Piexoto, qui sera, j'en suis sûre, passionnant et plein d'enseignements. Nous, les membres de l'Association de recherche guiléadienne, sommes convaincus que cette période mérite certainement des études plus poussées, dans la mesure où, en dernière analyse, elle fut à l'origine de la nouvelle configuration de la carte du monde, notamment dans notre hémisphère. Mais avant d'ouvrir nos travaux, quelques informations. L'expédition de pêche aura lieu demain comme prévu, et ceux d'entre vous qui n'ont pas apporté de vêtements de pluie adéquats et de produits anti-moustiques pourront s'en procurer à prix modique auprès du bureau des inscriptions. La promenade botanique et le concert en plein air en costume d'époque ont été reportés à après-demain, car notre infaillible professeur Johnny Running Dog nous garantit une amélioration du temps pour ce jour-là. Permettez-moi de vous rappeler les autres manifestations patronnées par l'Association de recherche guiléadienne qui vous sont proposées à l'occasion du congrès dans le cadre de notre 12e colloque. Demain après-midi, le professeur Gopal Chatterjee de la faculté de philosophie occidentale, Université de Baroda, Inde, nous entretiendra du thème « Éléments inspirés de Krishna et de Kali dans la religion d'État de la période guiléadienne primitive ». Et jeudi matin, est prévue une conférence du professeur Siglinda Van Buren de la faculté d'histoire militaire de l'université de San Antonio, République du Texas. Le professeur Van Buren présentera un exposé illustré qui, nul doute, sera passionnant sur le thème « La tactique de Varsovie, politique d'encerclement des centres urbains dans les guerres civiles guiléadiennes ». Je suis sûre que nous tiendrons tous à assister à ces conférences. Je dois aussi rappeler à notre conférencier principal, tout en étant convaincu que c'est chose inutile, de bien vouloir s'en tenir à son temps de parole, car nous voulons avoir le loisir de poser des questions, et je pense que personne ne souhaite se passer de déjeuner comme c'est arrivé hier. Je n'ai guère besoin de présenter le professeur Piexoto, car nous le connaissons tous fort bien, sinon personnellement, en tout cas par ses nombreuses publications. Ces dernières comprennent les lois somptuaires à travers les âges, analyse de documents, et l'étude bien connue, l'Iran et Gilead, deux monothéocraties de la fin du XXe siècle, vues à travers des journaux intimes. Comme vous le savez également, il est coéditeur avec le professeur Notley Wade, qui enseigne lui aussi à Cambridge, du manuscrit que nous examinerons aujourd'hui et a joué un rôle essentiel dans la transcription, l'annotation et la publication de ce texte. Voici le titre de son exposé, problème d'authentification en rapport avec le conte de la servante écarlate. Le professeur Piexoto.
Merci. La délicieuse truite boréale qui nous fut servie hier soir a été pour nous tous, j'en suis sûr, une jouissance du palais. Et nous jouissons aujourd'hui de la présence à cette tribune d'une tout aussi délicieuse présidente boréale. J'emploie le verbe « jouir » dans deux sens différents, à l'exclusion bien sûr du troisième tombé en désuétude. Mais soyons sérieux. Je me propose, comme l'indique le titre de ma petite causerie, d'examiner certains des problèmes liés au supposé manuscrit que vous connaissez maintenant tous sous le titre « Le conte de la servante écarlate ». Je dis « supposé » parce que ce que nous avons devant nous n'est pas la pièce ou sa forme originelle. À proprement parler, ce n'était nullement un manuscrit au moment de sa découverte et cela ne portait pas de titre. L'épigraphe « Le conte de la servante » lui a été donné par le professeur Wade en partie en hommage au grand Geoffrey Chaucer. Mais ceux d'entre vous qui connaissent personnellement le professeur Wade, comme c'est mon cas, me comprendront si j'affirme ma conviction que tous les jeux de mots étaient intentionnels, surtout celui relatif à l'acception vulgaire du mot « con ». Ce dernier étant, dans une certaine mesure, la pomme de discorde, si j'ose dire, de la période de la société guiléadienne dont traite notre saga. La pièce, j'hésite à utiliser le mot « document », a été déterrée sur le site de ce qui fut jadis la ville de Bangor, sise dans l'état du Maine, à l'époque antérieure à la naissance du régime guiléadien. Nous savons que cette ville était une étape importante sur ce que notre auteur appelle « la route clandestine des femmes », surnommée depuis par certains historiens plaisantins « la route clandestine des frangines ». C'est pourquoi notre association y a porté un intérêt tout particulier. La pièce, sous sa forme originelle, se composait d'une cantine en métal, propriété de l'armée américaine, datant environ de l'année 1955. Ce fait en soi n'est pas nécessairement significatif, puisque l'on sait que ces mêmes cantines étaient souvent vendues à titre de surplus de l'armée et devaient par conséquent être courantes. Dans cette cantine, qui était scellée avec du ruban adhésif du type jadis utilisé pour les paquets expédiés par la poste, se trouvaient environ 30 cassettes de bandes magnétiques, du modèle qui est tombé en désuétude entre les années 80 et 90 au moment de l'apparition du disque compact. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de la première découverte de ce genre. Vous avez certainement eu vent, par exemple, de la pièce connue sous le titre « Les mémoires d'A.B. », découverte dans un garage de la banlieue de Seattle, et du « Journal de paix », exhumé fortuitement lors de la construction d'une nouvelle salle de réunion dans le voisinage de ce qui fut autrefois Syracuse, dans l'État de New York. Le professeur Wade et moi-même étions très excités par cette nouvelle découverte. Heureusement, plusieurs années auparavant, et avec l'aide de notre excellent technicien antiquaire, nous avions reconstruit une machine capable de jouer ces cassettes et nous nous sommes immédiatement attelés au laborieux travail de transcription. La collection comportait un total de 30 bandes, avec une alternance variable de musique et de paroles. En général, chaque cassette débute par deux ou trois chansons, sans doute en guise de camouflage. Puis, la musique est coupée et la voix de la narratrice reprend. Il s'agit d'une voix de femme, et d'après nos experts en phonétique, c'est la même tout au long. Les étiquettes des cassettes sont d'authentiques étiquettes d'époque, datant évidemment d'une période légèrement antérieure au début de l'ère guiléadienne primitive, puisque toute la musique séculière de ce style avait été bannie sous ce régime. On dénombre, par exemple, quatre cassettes intitulées « Les années d'or d'Elvis Presley », trois des « Chants folkloriques de Lituanie », trois de « Petit Georges, fais-nous planer », deux des « Violons de velours de Mantovani », ainsi que quelques enregistrements qui n'occupent chacun qu'une seule cassette. « Frangine la défonce à Carnegie Hall » en est un que j'affectionne tout particulièrement. Quoique les étiquettes fussent authentiques, elles n'étaient pas toujours apposées sur les cassettes contenant les chansons correspondantes. De plus, les cassettes n'étaient pas rangées dans un ordre particulier, mais en vrac au fond de la malle. Elles n'étaient pas non plus numérotées. Le professeur Wade et moi-même avons donc dû organiser les blocs du récit dans l'ordre dans lequel ils semblaient se dérouler. Mais, comme je l'ai indiqué ailleurs, pareils arrangements se fondent sur des conjectures et doivent être considérés comme approximatifs en attendant de nouvelles recherches. Lorsque nous avons eu la transcription en main, et nous avons dû la relire à plusieurs reprises en raison des difficultés posées par l'accent, les références obscures et les archaïsmes, il nous a fallu prendre une décision quant à la nature du matériel que nous avions acquis au prix de tant d'efforts. Plusieurs possibilités s'offraient à nous. D'abord, il se pouvait que les bandes fussent des faux. Comme vous le savez, il y a plusieurs exemples de contrefaçons pour lesquels des éditeurs ont déboursé des sommes considérables, désirant sans doute jouer sur le sensationnalisme de ce genre de récit. il semble que certaines périodes historiques deviennent rapidement, tant pour d'autres sociétés que pour celles qui les suivent, matière à légendes particulièrement peu édifiantes et l'occasion d'abondantes autocongratulations hypocrites. Si vous m'autorisez une parenthèse, permettez-moi de dire qu'à mon avis, la prudence s'impose lorsqu'il s'agit de porter des jugements moraux sur les Gileadiens. Nous devrions aujourd'hui avoir appris que de tels jugements sont nécessairement spécifiques à une culture. En outre, la société gileadienne était l'objet de pressions considérables, d'ordre démographique et autres, et se trouvait soumise à certains facteurs dont nous-mêmes sommes heureusement libérés. Notre tâche n'est pas de censurer, mais de comprendre. Je ferme ma parenthèse. Des bandes magnétiques comme celle-ci sont cependant très difficiles à contrefaire de manière convaincante, et les experts qui les ont examinées nous ont donné l'assurance que les objets matériels sont authentiques. Il est certain que l'enregistrement à proprement parler, c'est-à-dire la surimpression de la voix sur la bande musicale, n'aurait pas pu être réalisé dans les 150 dernières années. À supposer donc que les cassettes soient authentiques, qu'en est-il de la nature du récit lui-même ? De toute évidence, il n'a pas pu être enregistré pendant la période de temps qu'il relate, puisque, si l'auteur dit vrai, elle n'aurait pas disposé de machines ni de bandes magnétiques, ni n'aurait eu d'endroit où les cacher. En outre, la narration a une certaine qualité réflexive qui, à mon sens, élimine l'hypothèse du synchronisme. Elle a un parfum d'émotion remémorée, sinon dans la sérénité, au moins post facto. Nous avons estimé que si nous pouvions établir l'identité de la narratrice, nous serions sur la bonne voie pour parvenir à expliquer comment ce document, permettez-moi de le désigner ainsi pour abréger, a vu le jour. Pour ce faire, nous avons exploré deux axes de recherche. D'abord, nous avons essayé, en nous fondant sur de vieux plans urbains de Bangor et sur d'autres documents restants, d'identifier les habitants de la maison qui devaient s'élever sur le site de la découverte à peu près à l'époque en question. Peut-être, pensions-nous, cette maison était-elle une maison sûre de la route clandestine des femmes au cours de la période qui nous intéresse, et notre narratrice aurait pu y être cachée dans le grenier ou dans la cave pendant des semaines ou même des mois pendant lesquels elle aurait eu la possibilité de faire ses enregistrements. Bien sûr, rien n'éliminait l'éventualité que les cassettes aient été apportées dans le site en question après avoir été enregistrées. Nous espérions retrouver la trace des descendants des occupants hypothétiques qui, nous l'espérions, pourraient nous conduire à d'autres matériaux, des journaux intimes, peut-être même des anecdotes familiales transmises au fil des générations. Malheureusement, cette piste était une impasse. Il se peut que ces personnes, si elles avaient réellement constitué l'un des maillons de la chaîne clandestine, aient été découvertes et arrêtées, auquel cas toute la documentation les concernant aurait été détruite. Donc, nous avons attaqué sur un autre front. Nous avons dépouillé les archives de l'époque, en nous efforçant d'établir une corrélation entre des personnages historiques connus et les personnes qui figurent dans le récit de notre auteur. Les archives qui ont survécu à cette période sont fragmentaires, car le régime gileadien avait l'habitude de vider ses ordinateurs et de détruire les épreuves après diverses purges et bouleversements internes, mais quelques épreuves ont subsisté. Certaines ont même été introduites en contrebande en Angleterre à des fins de propagande, par les diverses sociétés « Sauver les femmes » qui existaient en nombre dans les îles britanniques à cette époque. Nous n'avions aucun espoir de retrouver directement la narratrice elle-même. Il était évident, d'après les preuves intrinsèques, qu'elle avait fait partie de la première vague de femmes recrutées pour assurer la reproduction et affectées à ceux qui nécessitaient leurs services et pouvaient les revendiquer grâce à leur position dans l'élite de la société. Le régime a immédiatement créé une réserve de ces femmes par la simple tactique qui consistait à déclarer adultère tous les seconds mariages et liaisons non maritales, à arrêter les partenaires féminines et, sous le prétexte d'inaptitude morale, à confisquer les enfants qu'elles avaient déjà, lesquels étaient adoptés par les couples sans enfants des échelons supérieurs, désireux d'avoir une progéniture par n'importe quel moyen. Pendant la période du milieu, cette politique a été élargie à tous les mariages qui n'avaient pas été contractés au sein de l'Église officielle. Les hommes haut placés du régime pouvaient ainsi faire leur choix parmi des femmes qui avaient donné la preuve de leur aptitude à la reproduction en ayant produit un ou plusieurs enfants sains, caractéristique recherchée à une époque de chute importante du taux des naissances caucasiennes. Phénomène observable non seulement à Gilead, mais dans la majorité des sociétés caucasiennes septentrionales de l'époque. Les raisons de cette baisse de natalité n'ont pas été entièrement élucidées. L'absence de reproduction peut certainement être attribuée en partie à l'existence généralisée de moyens contraceptifs de diverses natures, y compris l'avortement, dans la période immédiatement pré-guiléadienne. Certaines infertilités, donc, étaient voulues, ce qui peut expliquer la différence des statistiques entre caucasiens et non-caucasiens, mais toutes ne l'étaient pas. Ai-je besoin de vous rappeler que c'était l'époque de la syphilis de souche R et aussi de l'infamante épidémie de sida qui, dès lors que la population dans son ensemble a été atteinte, ont éliminé beaucoup d'individus jeunes et sexuellement actifs du pool de reproduction. Les enfants morts-nés, les fausses couches et les malformations génétiques étaient monnaie courante et ne faisaient qu'augmenter. Cette tendance a été mise en rapport avec les différents accidents et fermetures d'usines nucléaires et les incidents de sabotage qui ont marqué cette période, ainsi que les fuites à partir des lieux de stockage des produits de guerre chimiques et biologiques et des sites de décharge des déchets toxiques qui se comptaient par milliers, tant légaux qu'illégaux, dans certains cas, ces matériaux étaient simplement déversés dans les égouts, et avec l'utilisation incontrôlée des insecticides et herbicides chimiques et autres pulvérisations. Mais quelles qu'en fussent les causes, les effets étaient sensibles et le régime guiléadien n'a pas été le seul à y réagir à l'époque. La Roumanie, par exemple, avait devancé Gilead dans les années 80 en interdisant toutes les formes de contraception, en imposant des tests obligatoires de grossesse à toute la population féminine et en liant la promotion et les augmentations de salaire à la fertilité. Le besoin de ce que je pourrais appeler des services de natalité était déjà reconnu dans la période pré-guiléadienne, durant laquelle il lui était répondu de façon inadéquate par l'insémination artificielle, les cliniques de fertilité et l'utilisation des mères porteuses qui étaient louées pour l'occasion. Gilead proscrivit les deux premières méthodes comme étant contraires à la religion, mais légitima et renforça la troisième, considérée comme ayant des précédents bibliques. La polygamie séquentielle courante dans la période pré-guiléadienne fut remplacée par la forme plus ancienne de polygamie simultanée, pratiquée au début de l'époque de l'Ancien Testament et dans l'ex-État d'Utah au XIXe siècle. Comme nous l'enseigne l'histoire, aucun nouveau système ne peut s'imposer à un système antérieur sans incorporer bon nombre des éléments existants dans ce dernier. J'en veux pour preuve les éléments païens dans la chrétienté médiévale et l'évolution du KGB russe, né du service secret tsariste qui l'avait précédé. Or, Gilead n'a pas fait exception à cette règle. Ses politiques racistes, par exemple, étaient solidement enracinées dans la période pré-guiléadienne et des craintes racistes ont alimenté en partie le moteur passionnel qui a conduit à une prise de pouvoir réalisée avec succès. Notre auteur, donc, était une personne parmi beaucoup d'autres, et il convient de la voir dans le contexte général du moment historique dont elle a fait partie. Mais que savons-nous d'autre sur son compte, en dehors de son âge, de certaines caractéristiques physiques qui pourraient s'appliquer à n'importe qui, et de son lieu de naissance? Pas grand-chose. Il semble s'agir d'une personne cultivée, dans la mesure où l'on peut considérer qu'un diplômé de l'une quelconque des universités de l'Amérique du Nord de l'époque fut une personne cultivée. Mais, comme on dit, il courait les rues, donc cet élément ne nous aide pas. Elle ne juge pas utile de nous dévoiler son nom originel. Et d'ailleurs, tout document officiel où il aurait figuré aurait été détruit lors de son entrée dans le centre de rééducation Rachel et Léa. De Fred ne fournit aucun indice, car à l'instar de De Glenn et de Warren, il s'agit d'un patronyme composé de l'article possessif et du prénom du monsieur en question. Les femmes prenaient ces noms lorsqu'elles entraient dans la maisonnée d'un certain commandant et elles les abandonnaient quand elles la quittaient. Les autres noms figurant dans le document sont tout aussi inutiles aux fins d'identification que d'authentification. Luc et Nick nous laissèrent dans le flou artistique, de même que Moira et Janine. Il est hautement probable qu'il s'agissait de toute façon de pseudonymes adoptés pour protéger ces personnes au cas où les bandes auraient été découvertes. Si c'est bien le cas, cela était notre hypothèse d'après laquelle les cassettes ont été enregistrées à l'intérieur des frontières de Gilead plutôt qu'à l'extérieur et ensuite réintroduites en contrebande pour servir au réseau clandestin Mayday. L'élimination des possibilités que je viens d'évoquer ne nous en laissait plus qu'une. Si nous pouvions identifier l'insaisissable commandant, pensions-nous, nous aurions au moins progressé un peu. Nous avons supposé qu'un individu aussi haut placé avait probablement participé à la première réunion ultra-secrète du groupe de réflexion des fils de Jacob, où la philosophie et la structure sociale de Gilead furent élaborées. Ces réunions furent organisées peu après que les superpuissances eurent reconnu que les conflits armés avaient abouti à l'impasse et signé l'accord confidentiel sur les sphères d'influence, qui les laissait libres de faire face, en l'absence de toute ingérence, au nombre croissant de rébellions au sein de leurs empires respectifs. Les comptes rendus officiels des réunions des fils de Jacob furent détruits après la grande purge de la période moyenne, qui discrédita et liquida bon nombre des premiers bâtisseurs de Gilead. Mais nous avons eu accès à certaines informations grâce au journal rédigé en langage chiffré par Wilfried Limkin, l'un des sociobiologistes de l'époque. Comme nous le savons, la théorie sociobiologique de la polygamie naturelle a été utilisée comme justification scientifique de certaines des pratiques les plus curieuses du régime, tout comme le darwinisme avait été utilisé dans les idéologies antérieures. Le matériel Limkin nous permet de savoir qu'il y a deux candidats possibles, c'est-à-dire deux noms qui contiennent l'élément Fred. Frederick A. Waterford et B. Frederick Judd. Il ne subsiste de photographie d'aucun des deux, quoique Limkin décrive le deuxième comme un pisse-froid, et je cite « quelqu'un pour qui les préliminaires sont ce que l'on fait sur un terrain de golf ». Limkin lui-même n'a pas survécu longtemps à la naissance de Gilead, et nous ne possédons son journal que parce qu'il avait prévu sa propre fin et l'avait confié à sa belle-sœur à Calgary. Waterford et Judd présentent tous deux des caractéristiques qui les rendent intéressants pour notre recherche. Waterford avait fait des études de recherche de marché, et d'après Limkin, c'est lui qui avait conçu les costumes féminins et proposé que les servantes portent du rouge, idée inspirée des uniformes des prisonniers de guerre allemands dans les camps canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Il semble avoir été à l'origine du mot « participation », dérivé d'un exercice populaire au cours du troisième tiers du siècle. La cérémonie collective de la corde, toutefois, s'inspire d'une coutume villageoise anglaise du XVIIe siècle. Rédemption peut aussi être de son cru, quoique, au moment de la création de Gilead, ce terme, né aux Philippines, se soit répandu pour désigner d'une manière générale l'élimination des ennemis politiques de quelqu'un. Comme je l'ai dit ailleurs, il n'y avait pas d'éléments véritablement originaux à Gilead. Son génie fut celui de la synthèse. Judd, quant à lui, semble s'être moins intéressé aux emballages et s'être davantage préoccupé de tactique. C'est lui qui a suggéré de faire d'un pamphlet obscur de la CIA sur la déstabilisation des gouvernements étrangers le manuel stratégique des fils de Jacob. Et c'est également lui qui a dressé la première liste noire des Américains éminents de l'époque. On le soupçonne aussi d'avoir orchestré le massacre du jour du président, qui a dû exiger une infiltration maximum du système de sécurité entourant le Congrès, faute de quoi la Constitution n'aurait jamais été suspendue. On lui doit le projet des patries nationales et des boat people juifs, ainsi que l'idée de privatiser le plan de rapatriement des juifs, ce qui eut pour résultat que plus d'une cargaison de juifs fut simplement déversée dans l'Atlantique pour maximiser les profits. D'après ce que nous savons de Judd, ceci ne l'aurait pas trop dérangé. Il était partisan de la ligne dure, et Limkin lui attribue la phrase « Notre grosse erreur a été de leur apprendre à lire. nous nous garderons bien de la reproduire. C'est à Judd qu'on attribue la création de la forme, sinon de la désignation, de la cérémonie de participation, son argument étant que cela constituait non seulement une manière particulièrement terrifiante et efficace de se débarrasser des éléments subversifs, mais que cela faisait fonction de soupape d'échappement pour l'élément féminin de Gilead. Les boucs émissaires ont une utilité notoire tout au long de l'histoire, et il devait être particulièrement gratifiant pour ses servantes, si strictement surveillées par ailleurs, de pouvoir de temps en temps démembrer un homme de leurs mains nues. Cette pratique a atteint une popularité et une efficacité telles qu'elle a été officialisée dans la période moyenne, durant laquelle elle avait lieu 4 fois par an aux solstices et aux équinoxes. On retrouve ici l'écho des rites de fertilité des cultes primitifs de la déesse Terre. Comme nous l'avons dit lors de la discussion d'hier, Gilead, tout en étant indubitablement un régime patriarcal quant à la forme, était à l'occasion matriarcal quant au fond, à l'instar de certains secteurs du tissu social qui lui a donné naissance. Comme le savaient les architectes de Gilead, si l'on veut instituer un système totalitaire efficace, ou n'importe quel système d'ailleurs, il est nécessaire d'offrir certains bénéfices et libertés, à tout le moins, à une poignée de privilégiés en échange de ceux que l'on abolit. À cet égard, quelques commentaires sur la redoutable agence féminine de contrôle, connue sous le nom de Tante, s'imposent. Judd, d'après le matériel de Limkin, avait estimé d'emblée que le moyen le meilleur et le plus économiquement rentable de gérer les femmes aux fins de la reproduction et d'une manière générale était de confier cette tâche aux femmes elles-mêmes. Il y a à cette pratique de nombreux précédents historiques. En fait, aucun empire imposé par la force ou par d'autres moyens n'a failli à cette caractéristique. Faire diriger les indigènes par des membres de leur propre groupe. Dans le cas de Gilead, beaucoup de femmes étaient désireuses d'occuper les fonctions de tante, soit parce qu'elles croyaient réellement à ce qu'elles appelaient les valeurs traditionnelles, soit en raison des avantages qu'elles pourraient ainsi acquérir. Quand le pouvoir est rare, toute parcelle de pouvoir est tentante. Il y avait aussi une motivation négative. Les femmes sans enfants, ou stériles, ou déjà âgées et célibataires, pouvaient servir chez les tantes, et de ce fait ne pas être en surnombre et échapper à la déportation aux colonies malfamées qui contenaient des populations déplaçables, utilisées essentiellement comme équipes non récupérables pour le ramassage de produits toxiques. Quoique, avec de la chance, l'on pût être affecté à des tâches moins dangereuses telles que la cueillette du coton et des fruits. L'idée, donc, venait de Judd, mais la mise en œuvre portait la marque de Waterford. Qui d'autre, parmi le groupe de réflexion des fils de Jacob, aurait pu imaginer de faire porter aux tantes des noms inspirés de produits commerciaux que les femmes pouvaient se procurer dans la période immédiatement pré-gileadienne et donc familier et rassurant, des noms de produits cosmétiques, de préparations de pâtisseries, de desserts surgelés et même de remèdes médicaux. C'était un trait de génie, qui nous confirme dans notre opinion que Waterford était dans la force de l'âge un homme d'une ingéniosité notoire, tout comme l'était Judd à sa façon. L'on sait que ces deux messieurs n'avaient pas d'enfants et qu'ils étaient donc éligibles pour bénéficier d'une série de servantes. Le professeur Wade et moi-même avons émis l'hypothèse dans notre travail conjoint « La notion de semence dans la première époque gileadienne » que tous deux, comme bon nombre de commandants, avaient été en contact avec un virus stérilisant, mis au point par des expériences secrètes pré-gileadiennes, des manipulations génétiques sur les oreillons. Ce virus était destiné à être introduit dans les boîtes de caviar consommées par les hauts fonctionnaires de Moscou. L'expérience fut abandonnée après l'accord sur les sphères d'influence parce que nombreux furent ceux qui estimèrent que le virus était trop incontrôlable et donc trop dangereux, quoique certains auraient souhaité en asperger l'Inde. Pourtant, ni Judd ni Waterford n'étaient mariés à une femme connue de près ou de loin sous le nom de Pam ou de Serena Joy. Ce dernier nom semble être une invention quelque peu espiègle de notre auteur. La femme de Judd s'appelait Bambi Mae et celle de Waterford, Thelma. Cette dernière avait cependant été jadis un personnage de la télévision du type évoqué par la narratrice. Nous tenons ceci de Limkin, qui fait plusieurs observations insidieuses à ce propos. Le régime, quant à lui, prenait soin de dissimuler de tels manques à l'orthodoxie dans le passé des épouses de son élite. L'ensemble des éléments de preuve nous fait pencher pour Waterford. Nous savons par exemple que ces jours s'achevèrent, probablement peu après les événements décrits par notre auteur, lors de l'une des premières purges. Il fut accusé de tendance libérale, d'être en possession d'une collection substantielle et interdite de matériaux hérétiques pictoriaux et littéraires, et d'héberger un élément subversif. C'était avant que le régime n'eût commencé à tenir ses procès secrets et qu'il les télévisait encore, si bien que ces événements ont été enregistrés en Angleterre par voie de satellite et sont déposés sur vidéocassette dans nos archives. Les images de Waterford ne sont pas bonnes, mais elles sont assez nettes pour établir qu'il avait bien les cheveux gris. Quant à l'élément subversif que Waterford était accusé d'héberger, il aurait pu s'agir de Fred elle-même, puisque sa fuite l'aurait placé dans cette catégorie. Il est plus probable qu'il s'agisse de Nick, lequel, l'existence même des cassettes le prouve, a dû aider de Fred à s'échapper. La manière dont il est parvenu à le faire le situe comme l'un des membres du ténébreux réseau clandestin Mayday, qui n'était pas identique à la route clandestine des femmes, mais entretenait des liens avec cette dernière. Celle-ci était purement une opération de sauvetage, celui-là était quasi militaire. L'on sait qu'un certain nombre de responsables de Mayday ont infiltré la structure du pouvoir guiléadien au niveau les plus élevés, et la mise en place de l'un de leurs membres au poste de chauffeur de Waterford a certainement été un coup réussi. Un coup double, puisque Nick devait également faire partie des yeux, comme c'était souvent le cas des chauffeurs et des domestiques personnels. Waterford ne l'ignorait certainement pas. Mais étant donné que tous les commandants de haut rang étaient automatiquement chefs des yeux, il n'y a probablement pas attaché beaucoup d'importance, et cela ne l'a pas empêché d'enfreindre ce qu'il considérait comme des règles mineures. À l'instar de la plupart des commandants de la première époque guiléadienne, il pensait que sa situation le plaçait au-dessus de toute attaque possible. Le style de la période moyenne était plus prudent. Voici donc nos conjectures. À supposer qu'elles soient exactes, c'est-à-dire à supposer que Waterford était bien le commandant, de nombreuses lacunes demeurent. Certaines auraient pu être comblées par notre auteur anonyme, si elle avait eu une autre tournure d'esprit. Elle aurait pu nous apprendre beaucoup sur le fonctionnement de l'Empire guiléadien, si elle avait eu des instincts de journaliste ou d'espionne. Que ne donnerions-nous pas aujourd'hui, pour ne serait-ce qu'une centaine des pages des sorties de l'ordinateur privé de Waterford? Cependant, nous devons être reconnaissants à la déesse de l'histoire pour les moindres miettes qu'elle a bien voulu nous accorder. Quant au destin final de notre narratrice, il demeure obscur. A-t-elle pu passer en fraude la frontière de Gilead, entrer dans ce qui était le Canada, et de là gagner l'Angleterre? Ça aurait été sage, dans la mesure où le Canada de l'époque ne souhaitait pas contrarier son puissant voisin et procéder à des rafles et des extraditions de cette catégorie de réfugiés. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir emporté les enregistrements avec elle? Peut-être son départ a-t-il été précipité? Peut-être craignait-elle qu'il soit intercepté? Par ailleurs, il se peut qu'elle se soit fait reprendre. Si elle a bien atteint l'Angleterre, pourquoi n'a-t-elle pas publié son récit, comme beaucoup l'ont fait à leur arrivée dans le monde extérieur? Elle a pu craindre des représailles contre Luc, supposant qu'il était encore en vie, ce qui est improbable, ou même contre sa fille, car le régime guiléadien n'était pas au-dessus de pareilles mesures et les utilisait pour décourager la publicité défavorable dans les pays étrangers. L'on sait que plus d'un réfugié imprudent a reçu une main, une oreille ou un pied, emballé sous vide et expédié par express et dissimulé par exemple dans une boîte de café. Ou peut-être a-t-elle été parmi celles des servantes fugitives qui ont eu du mal à s'adapter au monde extérieur quand elles l'ont retrouvée après l'existence protégée qu'elles avaient connue. Elle a pu, comme elle, se retirer du monde. Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons non plus que supputer les raisons qui ont poussé Nick à organiser sa fuite. Nous pouvons supposer que dès lors que l'appartenance de sa compagne de Glen à Mayday a été découverte, lui-même pouvait se trouver menacé, car il savait parfaitement, puisqu'il faisait partie des yeux, que Defraid serait certainement soumise à un interrogatoire. Les peines qui sanctionnaient des activités sexuelles non autorisées avec une servante étaient lourdes, et sa qualité d'œil ne le protégeait pas automatiquement. La société guinéadienne était byzantine à l'extrême, et toute transgression pouvait être utilisée par quiconque à l'encontre d'ennemis non déclarés au sein du régime. Il aurait pu, certes, l'assassiner lui-même, ce qui aurait peut-être été la solution la plus sage, mais le cœur humain a ses raisons, et comme nous le savons, tous deux pensaient qu'elle était peut-être enceinte de lui. Quel mâle de la période guinéadienne aurait-il pu résister à la possibilité d'une paternité, tellement auréolée de prestige, si hautement valorisée? Il a donc appelé une équipe de secours, composée d'yeux, qui était peut-être authentique ou non, mais qui de toute façon était sous ses ordres. Ce faisant, il se peut qu'il ait été l'artisan de sa propre chute. Cela non plus, nous ne saurons jamais. Notre narratrice a-t-elle gagné le monde extérieur saine et sauve pour s'y construire une vie nouvelle? Ou a-t-elle été découverte dans sa cachette, au grenier, arrêtée, déportée aux colonies, expédiée chez Jézabel ou même exécutée? Notre document, tout en étant éloquent à sa manière, reste muet sur ces points. Nous pouvons rappeler Eurydice du monde des morts, mais ne pouvons pas la faire répondre, et lorsque nous nous retournons pour la regarder, nous ne l'apercevons qu'un bref instant avant qu'elle ne nous échappe et s'enfuit. Comme le savent tous les historiens, l'histoire est une immensité obscure qui résonne d'échos. Des voix peuvent parvenir à nos oreilles, mais ce qu'elles nous disent est prégnant de l'obscurité de la matière d'où elles proviennent, et quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas toujours les déchiffrer avec précision à la lumière plus nette du jour d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions?
Bonjour et merci, professeur Piexoto. J'ai lu cette transcription plusieurs fois avec grand intérêt et j'aimerais en savoir plus sur la façon dont vous avez procédé pour la diviser en sections et leur attribuer des dénominations. Par exemple, sur les 15 chapitres, si l'on peut les désigner ainsi, 4 sont intitulés « Nuit ». Pourriez-vous nous en dire plus sur cette convention?
Merci, professeur Chéou. Les événements rapportés sur ces enregistrements semblent se diviser naturellement entre les activités de la journée, liées à des événements publics et à des tâches qui portaient des noms connus de tous dans la culture de Gilead, et les activités nocturnes, qui étaient soit privées et secrètes, soit communes et secrètes, et qui ne portaient pas de nom parce qu'elles n'étaient pas censées avoir lieu. De là vient la division du texte entre chapitres diurnes portant des noms et des chapitres indifférenciés, et nocturnes nommés nuit qui nous a semblé approprié.
Merci de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, professeur. Il existe différentes versions de la façon dont la cantine qui contenait ces enregistrements a été découverte. Pourriez-vous partager avec nous le récit de la façon dont les enregistrements ont été mis au jour et comment ils sont arrivés dans votre laboratoire ?
J'en déduis que vous travaillez pour un journal ou un magazine. Les journaux et les magazines aiment les histoires d'aventures et de découvertes. J'aimerais pouvoir vous trouver des serpents venimeux et des évasions de dernière minute, mais je crains que la vraie découverte n'ait été un peu plus prosaïque. Comme vous le savez, la ville de Passamaquoddy, autrefois connue sous le nom de Bangor, a beaucoup investi dans un complexe muséal appelé le village de Gilead. C'est une tentative de préserver et de reconstruire divers édifices et artefacts de cette époque, dans un but d'éducation et de récréation. Les résultats ne sont pas toujours précis. Qui peut s'attendre à une précision totale après tant de temps? Mais ils sont vraiment pittoresques. Je fais partie du comité consultatif du musée, et lorsque la cantine qui contenait les bandes a été découverte derrière un faux mur dans une vieille maison qu'il était prévu de déplacer, les ouvriers me l'ont tout naturellement amenée, à moi et à mon équipe, car on leur avait donné l'ordre de présenter tous les artefacts historiques qu'ils trouveraient. J'espère que cela répond à votre question.
La narratrice de ce document raconte que Tante Lydia, de l'agence des Tantes, fantasme sur un futur où les femmes vivraient ensemble dans des sortes de tribus familiales, les épouses et les servantes se soutenant les unes les autres dans un but commun. Ce type d'harmonie domestique fut-il jamais atteint avant la chute de Gilead ?
Merci pour cette question judicieuse. L'agence des tentes avait beaucoup recours à des récits provenant de cultures polygames, pas seulement celles décrites dans la Bible, mais également certaines existant dans le monde musulman, en Afrique, dans l'institution du Lebensborn de l'Allemagne nazie et, bien sûr, les mémonites du Vieil Ordre, un phénomène typique de l'Amérique du Nord. Mais dans ces cultures, les femmes secondaires ou supplémentaires avaient le droit de participer à l'éducation de leurs propres enfants, alors qu'à Gilead, du moins à l'époque couverte par ces enregistrements, on ôtait les enfants aux servantes, et les épouses de l'élite les élevaient comme s'ils avaient été les leurs. Il existe des preuves montrant que plus tard, on fit des tentatives pour encourager une organisation plus inclusive, dirons-nous, car les mères de naissance restaient dans la maison familiale. Les épouses n'aimaient pas cela, elles éprouvaient des sentiments de jalousie sexuelle et parturitionnelle, et d'après ce que nous savons, ce système a été aboli par la suite. Et les servantes furent renvoyées, comme Agar le fut par Sarah et Abraham, mais sans leurs petits Ismaël, pour ainsi dire.
Bonjour. Oui, je me demandais, l'un des éléments les plus déchirants de cette histoire est le fait que la fille de la narratrice lui est enlevée. J'imagine qu'il n'y a aucun espoir pour qu'après sa fuite, de Fred ait pu retrouver son enfant.
Merci. Vous préparez une licence. Je suis conscient que les jeunes gens vivent d'espoir et que vous souhaitez que les histoires tristes de ce genre se terminent bien. Je suis désolé de vous décevoir. Le fait est que nous n'en savons tout simplement rien. Il existe des récits de réunions mère-enfant, des enfants retrouvés par le réseau clandestin Mayday et à qui on a fait passer clandestinement la frontière avec le Canada, puis que l'on a transporté en Angleterre où existaient diverses associations caritatives s'occupant de servantes réfugiées. Mais nous ne pouvons pas savoir si notre narratrice en fit partie. Il est extrêmement difficile de retrouver la trace d'une personne dont le vrai nom a été oblitéré.
Vous avez parlé de la recréation d'un magnétophone utilisé pour dévoiler ce récit. J'aimerais beaucoup savoir si quelqu'un a tenté de recréer une machine à imprimer des parchemins de l'âme. Et comment celle-ci collectait les paiements ?
Merci de cette question. Vous travaillez dans la technologie, j'imagine. Je ne suis pas très doué pour cela. Je me repose sur notre excellente technicienne des antiquités, Anita Catry, quand il s'agit de détails précis. Son gramophone de 1920 est une pure merveille. Et l'iPad qu'elle a reconstitué fonctionne vraiment dans une certaine mesure. Nous lui avons effectivement demandé de recréer une machine à parchemin de lame pour qu'elle puisse être utilisée dans le musée du village de Gilead. Il n'est pas encore terminé, mais nous avons de grands espoirs. Quant au paiement, il devait s'effectuer avec des jetons, comme c'était le cas à Gilead, un peu comme les coupons de viande utilisés pendant la guerre du milieu du XXe siècle. Laquelle était-ce déjà ? Vous allez devoir me le rappeler, ce n'est pas ma période.
Professeur Piexoto, de nouveau merci de nous avoir accordé votre temps. Une grosse partie de mes recherches personnelles se sont concentrées sur les efforts immédiats de résistance au régime de Gilead en train de s'établir, et sur les moyens rapides et brutaux empruntés pour étouffer ces efforts d'opposition. Ce compte-rendu exprime de façon assez claire l'apathie et la peur qui prévalaient à cette époque. Mais pensez-vous, comme c'est mon cas, que même dans cette confession honnête, la narratrice a pu dissimuler certains de ses propres efforts ou activités politiques ?
Merci pour votre question. Je partage votre opinion. D'après ce que nous savons des régimes totalitaires, autoritaires et dictatoriaux de cette période, ils étaient assez impitoyables et employaient des moyens extrêmes pour liquider ceux qu'ils percevaient comme des ennemis et réduire toute opposition au silence. Les véritables régimes autoritaires, qu'ils aient été de gauche, de droite ou basés sur une religion fondamentaliste, n'hésitaient pas à tirer sur les participants à des manifestations pacifiques, à faire taire les médias et à utiliser les viols et même les meurtres de masse comme moyen de contrôle. Ils perpétraient aussi des assassinats, ingénieusement effectués dans des métros, des ascenseurs ou des chambres d'hôtel, et utilisaient les simulacres de procès, les arrestations secrètes, les emprisonnements sans motif, la torture et les goulags. Leur mécanisme de propagande était très efficace. Lorsqu'il n'existe pas d'informations véritables, les fausses nouvelles peuvent être rendues très plausibles. On a conduit beaucoup de populations à croire que ces régimes travaillaient dans leur intérêt, ou du moins qu'ils étaient préférables aux alternatives d'alors. Donc, selon moi, notre narratrice aurait eu la prudence de dissimuler des indices spécifiques qui auraient pu mettre d'autres personnes en danger si ces enregistrements avaient été découverts par le régime. C'est ce que je suppose.
Oui, merci. Je me demande si, au cours de vos recherches sur notre source, vous avez trouvé et examiné des enregistrements ou des récits sur l'organisation MEDEI.
Merci. Moi et mon équipe avons fait de nouvelles découvertes, oui, mais je ne suis pas encore en mesure de les partager. Nous ne souhaitons pas nous précipiter pour publier avant d'avoir vérifié et revérifié notre matériel et son authenticité. Des gens ont déjà été trompés par d'habiles faussaires. Et il y a longtemps, ce furent les faux jumeaux d'Hitler et, plus récemment, le journal de Tante Lydia. Très bien contrefait, je dois l'avouer. Nous souhaitons être certains de notre position. Mais accordez-nous un an ou deux. J'espère que vous aurez une bonne surprise.
J'ai été fasciné par le passage concernant le club des Jézabels, car c'est la description la plus précise d'un comportement social interdit dans la haute société guiléadienne qui a jamais été documenté. Savez-vous si ce genre d'hôtels reconvertis étaient nombreux à cette époque? Quelles autres activités illégales l'élite appréciait-elle?
Eh bien, vous savez que les dieux et les rois ont toujours accédé à des plaisirs interdits aux simples mortels. Ce n'est pas un domaine de recherche sur lequel le professeur Wade et notre équipe se sont concentrés, mais des travaux utiles sont en cours en Arizona sous la direction du professeur Teresa Tenock et son équipe. Au cours des conversations informelles que nous avons pu avoir, j'ai pu comprendre qu'une fois que le régime Gilead a été bien installé, il a existé une chaîne de clubs Jézabel, des travailleuses du sexe étant échangées entre eux un peu comme des stars de football. On pouvait acquérir un certain statut temporaire de cette façon. Le professeur Tenock m'a dit que ces établissements, bien que toujours officiellement illégaux, bien entendu, étaient très populaires dans les clubs de golf. Ils étaient interdits aux épouses, bien entendu, car les femmes ne jouaient plus au golf.
Est-ce que vous ou quelqu'un de votre équipe avez jamais tenté de récupérer des échantillons d'ADN sur ce genre de découverte?
Nous l'avons fait, mais sans succès jusqu'à présent, hélas. Le régime guiléadien a tenté de faire disparaître la génétique de l'espace public, pour des raisons évidentes. Ils ne voulaient pas que l'on puisse demander quoi que ce soit sur la parenté des enfants, mais ils ont conservé les connaissances en secret, pour que les yeux puissent les utiliser. Beaucoup d'autres personnes au début de Gilead en avaient connaissance, et des membres du réseau clandestin Mayday semblent avoir effacé scrupuleusement toutes les traces d'ADN qui auraient pu conduire à eux ou à ceux qu'ils aidaient.
Merci beaucoup d'accepter de répondre à une dernière question, professeur. Tous ceux qui assistent à cette conférence se sentent en sécurité et pensent que nous vivons à une époque où ce genre de passage à un régime autoritaire ne pourrait pas se produire. Mais selon vous, quel genre de climat politique pourrait potentiellement briser le statu quo actuel et nous ramener en arrière dans le temps, pour ainsi dire?
Merci. Je suis satisfait que notre petit projet ait rencontré un tel intérêt. Les études guiléadiennes ont végété pendant tant d'années. J'imagine que ceux qui avaient vécu cette époque ne veulent pas la voir recréée pour diverses raisons, y compris ce qu'on avait pu leur faire et ce qu'eux-mêmes avaient pu faire. Mais nous avons suffisamment de distance pour avoir un peu de perspective. Heureusement que c'est la dernière question, car je n'ai plus de voix. Pour revenir à votre question, en temps de paix et de prospérité, il est difficile de se souvenir des conditions qui ont mené à des régimes autoritaires par le passé. Et il est encore plus difficile d'imaginer que nous serions capables de faire ces choix ou de permettre qu'ils soient faits. Mais lorsqu'il se produit une tempête parfaite et un effondrement de l'ordre établi, aggravé par des stress environnementaux qui conduisent à des pénuries de nourriture, des facteurs économiques tels que des troubles dus au chômage, une structure sociale déséquilibrée avec trop de richesses concentrées entre les mains de trop peu de personnes, on cherche des boucs émissaires et on leur fait porter le blâme. La peur est partout et il existe une pression pour que ce que nous considérons comme la liberté soit échangé contre ce que nous estimons être de la sécurité. Et lorsque le taux de natalité d'une société est assez bas pour créer une population âgée et qui diminue, les autorités commerciales et militaires prennent peur. La base de leur clientèle et de leur recrutement est en danger, et l'on exerce une pression importante sur les femmes en âge de procréer pour équilibrer le déficit de population. C'est là qu'interviennent notre servante et son comte. J'espère être en mesure de vous présenter les résultats de nos recherches guiléadiennes dans le futur. Merci de votre attention.
Vous venez d'écouter « La servante écarlate » de Margaret Atwood, traduit de l'anglais par Sylviane Ruet, lu par Louise Bourgoin, ainsi que Marie-Ève Dufresne, Vincent Deboire, Marine Royer, Camille Lamache, Damien Viteka, Elena Champiré, Ariane Brousse, Flora Brunier, Christian Bobet, Antoine Doignon, Julie Borguero et Ludovic Jocquiel. Une production Audible Studio.
Merci et à bientôt chez Audible.